Voilà, voilà, sur Tiffen et Paul Persson, je crois, qui parle, qui racontait « Je me souviens ». Ben on va se souvenir ce soir avec Marco. On va se souvenir de plein de choses. Et puis, il va nous rappeler aussi. Et puis, il va se souvenir avec nous et avec des invités qui nous va nous présenter dans quelques instants. Donc voilà, on est sur Radio Circa. On va parler de Marc Paretti et de l'univers autour. Moi, je suis très novice. Alors, je suis accompagné de Anne, parce que Anne va nous présenter, nous introduire Marco d'une façon un peu plus, une façon un peu plus intime ou alors de plus proche. Moi, je vais être très froid, je vais être très, très biographique. Ou alors, je vais pas tout dire, ça va être un peu long. Mais Marc Paretti a commencé petit. Il a commencé petit en février 1977. Il est né en février 1977 à Auch, ici même, d'un père enseignant au lycée Garros et d'une mère au foyer. C'est les premières lignes de sa bio. J'ai tout bon jusqu'à maintenant ?
C'est tout bon, oui, tout à fait. C'est exactement ça.
Et alors, Anne, elle a peut-être le côté intime de comment tu l'as rencontré, du moins, parce que vous vous connaissez depuis très longtemps.
Alors ça c'est quand même venu un peu plus tard. Était, on dirait, l'équivalent aujourd'hui de l'époque en culotte courte. Il était donc déjà au Pop Circus, son frère aussi d'ailleurs. Et mes filles ayant elles-mêmes fait le Pop Circus, il y a eu des moments de jonction, même s'il y a une différence d'âge. Mais c'était un peu, Marco, c'est la génération, on va dire, modèle pour mes enfants quand ils sont entrés au Pop Circus. C'était une époque assez glorieuse pour tout le groupe dont faisait partie Marco à l'époque. Moi, je voulais juste revenir sur les parents de Marc. Donc, pour ne pas les nommer, Pierre et Marie Chou, qui sont encore aujourd'hui des soutiens forts du Pop Circus, puisque tous les deux dans le conseil d'administration, et puis un parcours d'accompagnement fort dans le cirque, et notamment par rapport au festival, puisque quand même, il faut resituer le contexte, aujourd'hui c'était 25 ans de festival, Marco. Marie Chou a été une personne très présente, et notamment très présente auprès des artistes pendant de longues années. Et c'est aussi comme ça que j'ai rencontré Marie Chou sur le festival.
Ben oui, c'est vrai que c'est mes 25 ans de festival. En 25 festivals, j'en ai raté une année, parce que j'étais à Châlons-Champagne, c'était en 1999. J'étais en train de répéter le spectacle de sortie de l'école et j'ai été privé du festival. Donc cette année-là, j'ai vécu le festival anticipé. Je suis venu une semaine avant en vacances et je suis venu voir tous les chapiteaux qui se montaient, puisqu'à l'époque, le festival avait lieu sur le parc d'Andoumingue. Et j'étais par là, j'ai croisé Jean-François Cellier et plein de gens comme ça avec qui j'ai discuté. J'ai filé la main à la pâte. C'était ma manière à moi de faire mon festival. Mais j'ai raté tous les spectacles, toutes les soirées. C'était mon seul festival que j'ai raté. Après, j'ai fait tous les festivals.
Oui, parce que on est là pour évoquer aussi les 25 ans de ce festival au travers de vos invités, peut-être de tes invités, Marc, si tu peux nous présenter.
Oui,
on a deux autres personnes autour de la table.
Oui,
il y en a un qui se cache déjà.
Et une troisième à venir.
Il y a peut-être même une troisième personne qui va arriver, mais je ne sais pas. On va voir s'il arrive, parce qu'il avait l'air d'être un peu survolté. Il croise plein de monde, alors il est un peu dans une ambiance fofolle. C'est Jean-Benoît Mollet de la compagnie Anomalie, mais il nous rejoindra ou pas. Et sinon, on a autour de la table ce soir Vincent de Lavenère, donc qui est le neveu de Monsieur l'abbé de Lavenère, fondateur du Pop Circus. Et donc, on a, entre guillemets, on n'a pas tout à fait le même âge, mais on s'est croisés quand on était petits. Il venait, lui et son frère, participer à des spectacles du Pop Circus avec nous. Vincent est jongleur professionnel, bien entendu. Et puis, il y a aussi
dans la compagnie
Champ de Balle. Voilà, il pourra nous parler un peu du travail de sa compagnie, de tout ce qu'il fait, parce qu'il a un répertoire riche et il a aussi beaucoup de richesse dans la parole. Vincent.
Oh, pas trop.
Non, bon, il fait le modeste, mais quand on va lâcher les fauves tout à l'heure, on va peut-être plus pouvoir l'arrêter. Et puis il y a aussi autour de la table mon frère, Laurent Paretti, qui a un peu ouvert la voie dans la famille, puisqu'il est lui aussi jongleur. Il était aussi voltigeur à la bascule. Je dis il était parce que quand je dis il est, il précise toujours qu'il ne fait plus de voltige. C'est vrai, mais en tout cas, il a été acrobate à la bascule.
Il est encore taillé comme un voltigeur.
Oui, toujours. Mais
toujours surtout, magnifique. Oui, bien
jongleur. Jongleur plutôt au massu, bien qu'il ait jonglé aux balles étant petit. Mm-hmm. Il maîtrise très bien les balles. Mais
j'en refais des balles. Je m'y suis remis il y a un mois. C'est génial.
Ben voilà, il est content, voilà. Il s'est remis au bal. Et Vincent est plutôt jongleur au bal, mais il s'est jonglé au massue, bien entendu.
Oui, moi, j'ai en fait, c'est très simple. J'ai commencé avec des massues, des cerceaux. Et je me suis mis au bal uniquement pour une question technique. Les balles, ça se met dans le sac à dos plus facilement. Et surtout, on peut fermer un sac à dos, parce que les massues, on ne peut pas les fermer. Et donc, ça a été mon choix artistique. Voilà.
Ok, voilà, un choix purement technique.
Quoi. Extrêmement intéressant.
Alors moi j'ai une question qui me vient tout de suite. Là, on est à Auch, et Auch, et le cirque, c'est une vieille histoire d'amour. Est-ce que vous auriez été circassien ailleurs ? Est-ce que c'est cette localité, cette empreinte locale qui a été importante dans votre... Vous pensez que si vous étiez, je ne sais pas, originaire d'une ville où il n'y avait même pas un cirque qui était passé en 10 ans, vous auriez été circassien. Donc Auch a été important pour vous.
Évidemment.
Voilà.
Sans la ville d'Auch, c'est une évidence un peu... Ça coule de source parce qu'en 1980, moi je suis rentré au pop en 1981, peut-être j'avais 8 ans, j'étais en CE2. Et il se trouvait qu'à cette époque, des écoles de cirque, ça se comptait sur le doigt d'une main. Il y avait Fratellini, il y avait l'école du Carré Sylvia Montfort, je crois, à Paris, il y en avait deux.
Oui.
Il y avait une école en province aussi, je ne me souviens pas, mais c'était les cadets de circus
à
Étréchy. Et je crois qu'il y avait aussi le pop circus. Et il y en avait 4 à l'époque, les écoles de cirque, pour former des jeunes qui avaient envie de faire du cirque comme les autres qui font du foot. Il se trouve que moi je suis né dans une ville de 25 000 habitants, Auch, en plein milieu du Gers, où normalement c'est la Cambrousse. Il y avait une des seules écoles de cirque de France, quoi. Et si j'avais pas grandi à Auch, évidemment je serais pas artiste de cirque. Je serais peut-être heureux, mais je serais pas artiste de cirque, ça c'est évident.
Oui, alors après ça a commencé évidemment avec l'abbé de Lavener qui a monté cette école de cirque en 75.
Oui, c'est ça.
En fait. Donc moi, s'il avait fait des maths, j'aurais fait des maths. S'il avait, parce qu'on a, on s'entend, on a des relations évidemment. C'est mon oncle, donc on a des relations très très amicales. Donc je pense que s'il avait fait du chant, j'aurais fait du chant. Il se trouve qu'il a fait du cirque, donc j'ai fait du cirque, mais de manière complètement amateur. C'est-à-dire, évidemment, au début, on pense à faire du salto et envoyer des balles en l'air. C'est après qu'on apprend à corriger un petit peu les. Le tir des envies et à dompter un petit peu notre passion. Et du coup, ça en est devenu après un métier. C'est-à-dire qu'après, on est rentré dans des écoles, après nos études, tronc commun, on va dire, on est rentré dans des écoles plus professionnelles.
Vincent, vous faisiez partie de la première génération qui est partie au CNAC ?
Voilà, c'est-à-dire que moi, j'ai fait du... Voilà, on a été avec Rémi Balaguet, on a été les deux premiers à être rentrés à l'école de cirque de Chalon, on était super contents parce qu'on venait juste d'apprendre le flip-plaque, le flip arrière, et du coup on est rentré à Chalon en 87 ou 8.
8.
8. On est rentré à Chalon en 88.
Première année du festival.
Voilà, j'allais le dire, voilà. C'est ça.
Et donc
c'est...
voilà, non, les premiers festivals finalement, on faisait la barrière, on faisait des numéros, ça a été pendant 4-5 ans. Voilà. 4-5 ans, on a fait les premiers festivals comme ça.
Marc, tu voulais dire quelque chose ?
Non, je voulais.
Alors
rien
toi, ton entrée au CNAC, c'est quelle époque ?
Alors moi, c'est
quelle
beaucoup,
année ?
C'est beaucoup plus tard. Enfin, beaucoup plus tard. C'est en 1995, en septembre 95. Enfin, pas ma rentrée au CNAC. Je suis rentré d'abord à l'école de cirque de Rony Soubois. Mais bon, oui. On l'a répété dans plein d'émissions déjà. On sait que c'est à l'époque, en tout cas, c'était juste les deux premières années qu'il y avait avant à Chalon, parce que le cursus était de 4 années sur Chalon à l'époque de Vincent. Et avait été déplacé en 91 quand mon frère est rentré justement à l'école.
Donc Laurent, qui est un peu la génération intermédiaire entre vous deux.
Ah, Laurent, c'est la génération intermédiaire. Bien que, enfin, je veux dire, au Pop Circus, il était totalement dans notre génération, puisqu'on est nombreux à avoir fait du cirque après dans la génération du Pop Circus. Mais oui, il a fait un peu c'était un peu le pont entre Rémi et Vincent, et puis nous qui sommes arrivés derrière. Et Laurent, il faut quand même préciser qu'il a fait partie de cette première promotion à arriver à Rony Soubois et pas passer par Chalon sur les deux premières années. Et c'est important de le préciser parce que...
Moi, je suis le pionnier de Rony, mais Rony en tant qu'école professionnelle.
Moi, j'ai fait 5 ans, en fait, parce que ça pouvait aussi durer un an de plus. Donc, j'ai fait 5 ans à Chalon, uniquement à Chalon.
Et moi, je fais partie de la promo, les bébés Bernard Turin. Quoi. Moi, je suis le premier des bébés Bernard Turin avec la promo. Donc
Bernard Turin.
À Bernard Turin, incontournable. Quoi.
Voilà.
Feu Bernard Turin,
qui
a beaucoup fait pour le Circa d'abord.
Oui.
Qui était directeur de l'école de cirque de Rony Soubois.
Oui,
qui était une école
ça.
Amateur, mais où il y avait un très bon niveau quand même, il faut le dire. Des professionnels en sortaient. Et lui, il a repris le Knack, en fait, et il a eu cette idée de faire deux années préparatoires à Rosny-sous-Bois. Voilà. Donc la première promo préparatoire, j'en ai fait partie, c'était un peu un hasard, mais du coup, c'est vrai que Bernard Turin, notre promo en tout cas, nous a pris sous son aile parce qu'on a été un petit peu sa promo, j'ai envie de dire test entre guillemets, oui. Où toute sa politique était basée sur notre promotion.
Et tout le projet pédagogique qu'a mis en place Bernard Turin, il l'a éprouvé avec la promotion, cette promotion-là, qui était la septième promotion du Centre National des Arts du Cirque en sortie d'école.
Bernard Turin, qui a été le directeur absolument emblématique et charismatique de l'école, puisque c'était d'abord un acrobate. Moi, il m'a montré lors d'une tournée au Vietnam comment. Il m'a dit: tiens, Vincent, je vais te montrer ce que c'est qu'un salto avant. Mais il a fait avec toute une finesse, avec une fixation, une rotation, ouverture comme je n'avais jamais vu, alors qu'il pesait à l'époque 120 kilos. Enfin, c'était un truc incroyable. J'étais complètement éberlué de voir un gros bonhomme, parce que c'était un monsieur qui était très gros à l'époque. Hein, il pesait presque, je sais pas, 120 kilos.
Ah oui, c'était une boule. Hein.
J'ai vu.
Une vraie boule. Hein.
Et là, j'ai compris qu'il était acrobate. Quoi, parce que quelqu'un de cette corpulence, faire un salto avant, à 1m50 de haut, dans la baie d'Along, sur l'eau verte de la baie d'Along, c'était complètement féerique. Bon, il y a ça. Et puis aussi, c'était un sculpteur. Donc en fait, c'était un artiste. Et c'était quelqu'un de charismatique. C'était quelqu'un qui transpirait totalement. Quelqu'un qui avait des idées, qui avait une vision, qui était un visionnaire. Et ça a donné toute l'impulsion du cirque, en fait. Voilà. Mais avant, il y a eu aussi Bernard Kulda, qui était aussi... Moi, quand je suis arrivé à l'école, j'ai connu plusieurs directeurs qui se sont succédés. J'en ai connu 3 ou 4, qui ont eu chacun leur qualité, leurs défauts, mais aussi leurs qualités. Et du coup, c'est une école où il y a eu énormément de changements, énormément, et qu'on a ressenti... En fait, ça s'est ressenti, finalement, dans les premières promotions qui sont sorties, qui sont actuellement des gens comme Joanne Le Guilhem, qui sont... finalement des gens qui guident le cirque contemporain actuellement, qui sont les précurseurs du cirque contemporain, et ça correspond aux premières promotions de Chalon, voilà. Et ce sont des gens qui tournent actuellement, qui tournent le plus en France actuellement, enfin dans le monde entier, en fait. Donc du coup, voilà, Bernard Turin a été un des directeurs comme ça emblématiques. Il y en a eu d'autres aussi, et il va y en avoir d'autres, et du coup voilà.
Alors Marco, si je ne me trompe pas, quand tu es rentré au Knack, non, toi tu es passé aussi par Rosny, du coup,
oui,
tu as fait,
oui,
fait la filière
Rosny.
Quand tu es parti donc à Rosny, alors je ne sais pas si c'est à Rosny ou au Knack, moi j'ai le souvenir à Auch d'un spectacle qui s'est joué dans le Hall Lausanne, qui à l'époque n'était pas le local du Pop Circus, puisqu'il l'est devenu après. J'ai le souvenir d'un spectacle où tu faisais un peu le monsieur loyal, un peu bavard, alors je ne sais pas pourquoi.
Hein. Moi non plus.
Voilà. Et bon, parce que j'ai ma fille qui était dans ce spectacle et qui faisait donc la première partie. Et cette première partie, elle reprenait, on ne va pas dire de façon parodique, parce que c'était des enfants très jeunes, donc le sens de la parodie n'est pas encore installé, mais qui reprenait dans les grandes lignes un fameux spectacle des chaises, qui avait été joué en combinaison orange fluo par toute une troupe dont tu faisais partie, Marco.
Emblématique.
Ah oui. Oui.
Un standard du pop, quoi.
Oui, ben oui, bon, un standard du pop, il y en a eu d'autres avant.
Ah, j'ai dit un standard,
nous,
j'ai pas,
hein,
dit le standard.
On
ne
va
non,
pas
non,
s'envoyer des
pas
fleurs
eu que ça.
Pendant une
non,
heure.
Non, mais il n'y a pas eu que ça, mais c'est un standard.
On pourrait se pencher sur d'autres cas.
Je voudrais juste te
cas.
Dire que les chaises font toujours partie du décor intégral du Pop Circus encore aujourd'hui.
Oui, hein. Toujours.
Elles sont remises à jour et remises au goût du jour et repeintes et refaites. Et ça fait toujours partie du décor et des numéros du Pop Circus.
Mais c'est ça qui est bien, c'est ça qui est bien au Pop Circus, en fait. C'est ça que j'adore. J'y vais tout le temps au pop, en fait. Hein. Comme j'habite Auch, dès que je peux, je vais filer la main, surtout sur les cours de trapèze volant, où j'aime bien échanger avec Damien, qui est l'animateur du Pop Circus, parce qu'il me pose toujours plein de questions. Qu'est-ce que tu penses si on fait ce projet, ou ceci, ou cela? Et c'est toujours des bons moments. Alors moi, j'arrive, je suis un peu le perturbateur, j'arrive vers 18h30, j'ai des bières à la main, je les mets au frigo, puis je regarde ce qui se passe sur la piste, et puis après, à la fin, je dis à Damien, on boit à l'apéro, quoi. Et puis on discute, et puis bon, quand c'est de cours trapèze volant, je donne un peu des conseils. Mais bon, cette année, il y a Kevin, qui est un nouvel animateur qui vient d'arriver, il est très performant en trapèze volant, donc j'ai même été mis à la retraite, quoi. Enfin, j'ai plus besoin de donner aucun conseil parce qu'il est 10 fois plus fort, voilà, que moi au trapèze volant. Non, mais c'est vrai, et les gamins, en un mois et demi, je suis parti début septembre, j'ai fait le premier cours avec eux et Kevin. Ils avaient le niveau qu'ils ont, donc nous, on essaie de les amener jusqu'où on peut. Je suis revenu juste avant Circa, là, j'ai été voir le cours de volant, et j'ai été, mais vraiment, là, je dis ça, c'est pas pour leur passer la pommade, j'ai été bluffé, et j'ai dit vraiment, Kevin, il a fait un travail extraordinaire, parce que, à mon avis, venez voir le spectacle de fin d'année du Pop Circus, parce que vous n'aurez jamais vu un numéro de trapèze volant comme ça, joué par des amateurs, et encore moins en Pop Circus, qui est déjà quand même une des rares écoles amateurs à pouvoir prétendre à proposer du trapèze volant et en faire un spectacle de fin d'année. C'est une évidence. Mais du coup, tout ça pour dire que oui, les chaises, elles sont toujours là. Et elles sont les chaises avant que nous, on les... avant qu'on fasse le numéro en 1994. Effectivement, on a joué à Circa et ça a été aujourd'hui encore, quand on en reparle, c'était à cette époque-là encore quand même vraiment plus le festival des écoles. Il commençait à y avoir des spectacles professionnels, mais c'était le tout début. Donc la concentration, tout était focalisé quand même autour des écoles. Et ça a été un des grands numéros dont tout le monde se souvient. Alors il se trouve que j'étais dedans et nous on a pris en tout cas un pied énorme à jouer ce numéro. Mais avant qu'on monte ce numéro, les chaises elles étaient déjà là depuis 15 ans.
C'est-à-dire c'est toujours les mêmes.
Ces chaises,
chaises faites par Monsieur Galindo.
C'est exactement.
Les chaises de Monsieur Galindo, sont immuables parce que ce sont les chaises. Il a fait les chaises les plus merveilleuses.
Là encore, on pouvait pas faire de famille. Monsieur Galindo fait les chaises. Corinne Galindo s'occupe des petits pendant des années.
Ces chaises vont jusqu'à Paris. Hein. Moi, chez moi, j'en ai. J'en ai quatre, mais quand même, pour les acrobaties dessus.
Les chaises qu'on achète à Unicycle, en fait, sont moins bien que les chaises de Monsieur Galindo. Parce qu'elles n'ont pas le petit côté un petit peu arrondi à des endroits où on peut poser l'épaule pour ne pas se faire mal, en fait, ouais. quand on fait des équilibres.
Ou alors, quand on tient, par exemple, six chaises sur le menton, avec les chaises, effectivement, de Monsieur Galindo, c'est possible parce qu'elles ne sont pas très lourdes, elles sont solides.
Et donc, on ne se fait pas trop mal au menton. Avec les chaises d'Unicycle, ça devient un truc infernal.
Bah, il faut avoir un menton costaud. Voilà. Quoi. Donc, mais il y en a qui ont des mentons costauds et qui arrivent.
Du coup, c'est vrai que bon, moi, j'ai envoyé des gens qui n'étaient pas satisfaits des chaises d'Unicycle et qui ont fait quelques commandes à Monsieur Galindo. Quoi.
Ah, ben bah, oui. Voilà. Puis maintenant, il est fait en balsa.
En balsa, il en a fait.
Bon,
oui.
C'est un petit peu moins solide.
C'est
peu...
plus pour le menton, les équilibres menton.
C'est voilà, c'est ça que pour faire des.
Ouais, c'est qu'après les gens ils posent par terre les chaises, les gens ils croient qu'ils peuvent s'asseoir dessus, donc ils s'assoient dessus et puis blam 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 la chaise se casse, enfin bref.
Alors Marco, voilà. Tu avais donc oui. je pense que Jean-Benoît va pas arriver, mais on va pas lui en vouloir.
Non mais Jean-Benoît je le vois, il est juste là, il est tout près de la porte, mais il discute avec Christian Lucas. On connaît
voilà,
tous Kiki.
Il pourrait venir.
Il pourrait venir. Je pense qu'on verra pas Jean-Benoît parce qu'il va faire des blagues avec Kiki pendant une heure, parce que Kiki il est très fort pour faire des blagues.
Et donc on va peut-être parler aussi de ton lien avec la compagnie Anomalie.
Oui. Puisque... Ah. Tout à fait, en fait, c'est aussi pour ça que j'avais souhaité inviter mon frère, au-delà du fait que c'est mon frère, que je l'adore, qu'on a grandi ensemble.
Moi aussi, je t'adore.
Qu'on est sur la même longueur d'onde.
Complètement.
Globalement, artistiquement, sur la connerie, et ainsi de suite. Et la compagnie Anomalie, c'est quand même une des compagnies qui a été justement dans cette mouvance de la dynamique lancée par Bernard Turin à travers le CNAC. La compagnie Anomalie reste une compagnie emblématique des arts du cirque, qui a créé en sortie d'école sous la direction de Joseph Nage, le chorégraphe, le spectacle Cri du Caméléon, qui est un spectacle qui a tourné plus de 300 fois à travers la planète
et
qui a joué à Circa
et qui a créé un virage dans le milieu du cirque contemporain
et qui a été un vrai indéniablement, Vincent, tu as raison de le rappeler, c'est d'ailleurs aujourd'hui dans les écoles de cirque, les cours d'histoire du cirque, Pascal Jacob qui traîne en ce moment là sur le festival Circa, qui était un grand historien du cirque. Nous l'avait dit à l'époque quand on l'avait en cours d'histoire du cirque à Rosny-sous-Bois, donc c'était au moment du Cri du Caméléon, nous avait dit vous verrez que ce spectacle restera comme une pierre angulaire de l'histoire du cirque contemporain. Et aujourd'hui quand il va dans les écoles partout à travers la planète, parce que Pascal Jacob voyage partout à travers la planète, il parle du Cri du Caméléon comme vraiment un tournant dans l'histoire du nouveau cirque.
Ouais,
c'est-à-dire qu'il y a le nouveau cirque avant et après le Cri du Caméléon. Parce qu'avant, il y a toute une histoire. Il ne faut pas croire que le nouveau cirque a démarré en 95 avec le Cri du Caméléon. Il y a tout un pan avant d'histoire qui a commencé à la fin des années 70. Quelque chose avec un bouillonnement, avec des gens dans les arts de la rue et qui faisaient du tas de rues, qui ont eu envie de s'intéresser au cirque. Et c'est au début des années 80 qu'est né le cirque Plume, le cirque Archaos. Et qui ont commencé à exploser au milieu des années 80. C'est-à-dire que Archaos est devenu vraiment célèbre en 85-86. Plume, pareil, il y avait le cirque baroque à l'époque. Puis le cirque du Soleil de l'autre côté de l'Atlantique. Et Vincent parlait tout à l'heure de tous ces artistes comme Joanne Le Guillère et ainsi de suite, qui sont emblématiques.
Que Circeux, qui était aussi quelque chose
de très grand, ouais, un tournant. Mais tous ces artistes-là qui sont sortis des premières promotions du CNAC, au tout départ, ils ont rejoint
souvent Archaos
ou le Cirque Plume. Ah, et oui, certains le Cirque du Soleil, c'était plus les troupes de volants ou ainsi de suite. Oui. Et la première promotion du CNAC, il y avait des artistes, il y avait une troupe de volants. Mais cette troupe de volants a fait partie avec d'autres gens, dont Stéphane Ricordel, des fondateurs des Arceaux, qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui a été une compagnie de trapèze emblématique aussi et qui restera aussi dans l'histoire du cirque contemporain.
Ah, oui.
Donc on a un peu dévié du sujet, je ne sais plus de quoi on parlait.
On parlait de ton lien avec la compagnie Anomalie.
Ah oui, c'est vrai. Donc tout ça pour expliquer, oui. Après on redonnera
mais c'est intéressant, non mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi ce qui me frappe dans le cirque contemporain, c'est que finalement cette image, ce terme absolument ringard, parce que on dit toujours cirque nouveau, mais ça on le dit depuis les années 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, en fait, dès que le cirque finalement...
Depuis tout, après tout la les... Révolution française, on parle de cirque moderne.
Mais finalement, oui, non,
le
mais
cirque c'est avant c'était c'est attaché aux si Romains, voit... les Jeux du cirque.
Non mais si on voit les affiches extrêmement anciennes, en fait, c'est toujours cirque nouveau, chose nouvelle. Et nous finalement, on perpétue cette tradition d'appeler... cirque nouveau ou magie nouvelle, un art qui est finalement qui est plus ancestral. Que médiéval, qui est ancestral. Et du coup, ça c'est intéressant parce que finalement, ça crée une dynamique qui je trouve va bien au cirque contemporain. C'est-à-dire qu'on a finalement, c'est une recherche d'identité et qu'on a dans le travail de cirque. C'est-à-dire comment on peut chercher une identité qui évolue au fil des siècles, au fil des années. Comment on peut traiter de quelque chose qui... Comment on peut traiter d'un sujet qui a déjà été traité par nos pères il y a 200, 300 ou 400 ans, mais en y mettant une patte personnelle, une patte qui pue... et du coup, qui fait avancer un petit peu le milieu artistique, parce que chacun a besoin de tout le monde, en fait. Par exemple, des jongleurs, il y a des millions de jongleurs à trois balles, mais il y a personne qui fait un trois balles comme chacun fait un trois balles. Donc du coup, on a chacun une place à... Et du coup, faire du cirque contemporain actuellement, c'est extrêmement intéressant parce que, eh bien, on a une place. Voilà, moi, c'est ça qui m'a attiré aussi dans la jonglerie, c'est qu'on a chacun une place et on a une place qui sert à l'ensemble à l'ensemble de la pyramide, comme Johan Le Guerme fait des pyramides avec ses bouts de bois. Voilà, il en utilise une dizaine. Et puis nous, on est en train de construire le cirque contemporain. Il n'y a personne qui est meilleur qu'un autre finalement. On n'est pas dans une compétition, on est dans une construction commune, voilà. Et ça c'est intéressant en fait.
Alors moi je vais quand même revenir à la compagnie Anomalie pour le 10e anniversaire de Circa. La compagnie jouait 33 tours de piste.
Ah, oui.
C'est un moment marquant pour la compagnie, pour le cirque et pour le festival. Vous nous en parlez, Laurent et Marc, et puis après je crois qu'on aura un petit extrait, lié à ce spectacle.
Mais en fait, je vais laisser Laurent parler après, mais 33 tours de piste en 1997, c'est les 10 ans du festival, et c'est une année où il se passait plein de choses. Vincent en jouait aussi. On va pas en reparler, mais il avait été traumatisé. Il voulait plus revenir au festival. Je le dis comme ça, il n'a pas besoin de le dire.
Petite anecdote. En fait, c'était en
97.
Je crée avec Eric la première version de ce qui sera le Chant des Balles. Avec Rémi, comme metteur en scène, Rémi Balaguer, fidèle ami et compagnon. Et du coup, on crée une première version Philibert et on se plante. Parce que c'est important de se planter sur les premières créations. Donc on le fait dans notre fief, chez nous. On s'est trompé sur plusieurs choses qui sont des erreurs normales, en fait, hein, sans souci. Mais quand, devant un public de 500, 600 personnes, on connaît absolument tout le monde et que ça ne fonctionne pas aussi parce que le lieu ne se prêtait pas à ce genre de spectacle. Donc j'en garde un mauvais souvenir et je me dis à ce moment-là, je ne reviendrai pas à Circa, c'est terminé. Et la seule fois que je suis revenu, c'est aujourd'hui. En fait. Donc c'est un petit peu têtu de ma part, je ne m'en vante pas, mais parce que les 25 ans, de Circa, c'est autre chose en fait. On a en miroir ce que Marc Fouillant a fait ici, finalement, c'est un petit peu un miroir de ce qui se fait au pop, c'est-à-dire qu'il y a toute une histoire de transmission qui ne se passe pas à travers des règles sous lesquelles on est complètement gaga, parce qu'on est gaga de toutes les règles et on ne peut plus rien faire. Donc du coup, le pop circus, pourquoi ça fonctionne? Parce que on est un petit peu dans des règles de vie, règles d'apprentissage qui sont un petit peu hors normes et un petit peu différentes en fait. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a eu un transfert qui a été fait sur... Je pense que Marc bosse un petit peu aussi de cette manière-là, c'est-à-dire avec toute la relation avec le bénévole, c'est-à-dire que sans qui ça n'aurait pas pu prendre... Il n'y aurait pas eu ce projet-là sans des bénévoles, je pense, quoi. Comme il n'y aurait pas eu le pop circus sans des grands qui montrent aux petits, en fait. Et du coup, on est dans une transmission qui est assez intéressante. Mais ça, je m'égare.
Oui, non, mais c'était intéressant. Mais on va revenir donc à 33 tours de piste, parce qu'on va en écouter un petit extrait. Juste, voilà, 33 tours de piste, c'est cette même année, c'est une année où il y avait des plateaux, des soirées, où il y avait trois formes sur le même plateau qui s'enchaînaient. C'était des formes, voilà, une heure maxi pour 33 tours de piste. Vincent était peut-être à une demi-heure. La compagnie Vendôtan, cette année-là, avait aussi présenté la première version de son spectacle Pas touche terre, qui a fait le tour de la planète aussi après. Il y avait aussi un spectacle qui est resté dans les annales, qui s'appelait Marcher sous les étoiles en évitant les crottes. C'était un spectacle de clown par la compagnie Les Anoraks, qui était
les prémices du boudu de Bonaventure. On ne présente plus Bonaventure avec le boudu.
Voilà. Des gens
mais
issus
il était déjà là, le boudu.
C'était que des gens issus de la 9e promotion du CNAC qui ont monté le Cirque des Accordés derrière. Et il y avait
c'était monstrueux
ces soirées,
monstrueux.
C'était un spectacle de clown. Il y avait aussi Proserpine dans ce spectacle, donc Caroline Aubin.
Incroyable.
Donc tout le monde s'en souvient. Et il y a eu 33 tours de piste, qui était un des spectacles. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui parlent encore de ce spectacle comme un des spectacles les plus marquants de cette décennie-là à Circa. Et pour plein de gens aussi, ça reste sûrement le meilleur spectacle de la compagnie Anomalie. Et ce spectacle a été boudé par toute la profession. C'est-à-dire que la compagnie Anomalie s'est fait descendre par rapport à ce spectacle et ils ont joué en tout et pour tout peut-être 12 ou 13 dates. J'ai eu l'occasion de quasiment toutes les voir. Et c'est vrai que c'était un spectacle formidable. Voilà, on a un petit extrait du spectacle.
Qu'on va écouter tout de suite.
Le spectacle vient seulement de commencer. On m'a demandé de venir là, devant, pour vous raconter l'histoire. Ça a commencé en 1901, dans le trafic, dans le commerce. J'ai fait fortune à mon retour du Portugal, en vendant de l'acier à des colons au lait pour une usine à New Delhi. J'ai voyagé. En Afrique, j'ai eu quelques enfants métis, dont je n'ai jamais eu à m'occuper. Après, j'ai eu mal, vraiment mal. À Verdun, surtout lorsqu'un boulet de canon m'a arraché les deux mains alors que j'étendais le drapeau. Heureusement, on m'a donné des médicaments. Aujourd'hui, je vais beaucoup mieux. Après un crack boursier, j'ai pu me remettre à boire. Mais ce n'était pas très bon pour ma carrière de boxeur, ni pour celle de philatéliste d'ailleurs, il faut être précis. Sans oublier ceux qui sont restés chez eux parce que la santé n'est pas bonne. À Marseille, dans certains quartiers, des regards suspicieux m'ont rendu coupable de je ne sais même pas quoi. Heureusement, le soleil restera jaune la plupart du temps. Et s'il est trop chaud, nous nous abritons sous des pompes de chemin de fer. Faisons l'amour avec nos mains, nous attendons que la guerre cesse. Comme les cousins d'Argentine, de Belgrade ou d'Alger, je suis témoin.
Bonsoir, vous êtes sur Radio Circa, sur 103.5. Nous continuons notre conversation avec un invité spécial, Marc Parretti. Et donc autour de la table, Laurent du même nom, Laurent Parretti, et Vincent Delavenère. Vincent, oui. Tu voulais réintervenir ?
Non, mais on parlait hors micro et on se disait cette soirée des 10 ans, finalement, il y a eu la plupart des compagnies qui ont joué dans cette soirée-là, dont moi, en fait, dont la compagnie Chambal. Tous les noms qu'on a cités tout à l'heure, en fait, finalement, les spectacles après coup ont fait des carrières de l'ordre d'une soixantaine de pays. Enfin, c'est quand même hallucinant. C'est-à-dire que c'est le tour de la planète plusieurs fois. Et avec un nombre de dates qui avoisine les 300, enfin, je sais pas, entre 300 et 400 dates à peu près par spectacle. Donc tout, je pense à Bonaventure, je pense à Vendôtan avec Rémi Balaguer, je pense à Chambal où ça tourne encore aujourd'hui. Mais il y en a qu'un qui n'a pas tourné, c'est 33 tours de piste en fait. Et alors ça c'est très intéressant parce que ça n'a pas tourné alors que c'était que le spectacle était extrêmement innovant. Et donc là, ça montre bien que dans tous les arts, et là en l'occurrence dans le cirque, à partir du moment où on est finalement un petit peu trop innovant hors école, du coup la profession est un petit peu frileuse en fait. Et on le voit bien encore maintenant. C'est-à-dire que maintenant le cirque contemporain... Et c'est le problème du cirque contemporain, c'est le grave problème que va vivre sûrement ce centre-là, et comme tous les pôles cirques. C'est-à-dire que le cirque contemporain a une image qui est... On peut reconnaître... Enfin, on a à peu près tous la même image. C'est-à-dire que tous les spectacles sont à peu près pareils. Donc ça veut dire que c'est maintenant que ça commence à être difficile, dans le sens où il faut que dans le cirque contemporain... on trouve des gens qui soient charismatiques, c'est-à-dire qui soient porteurs, des gens qui soient comme des Coluche, comme des Raymond Devos, comme des gens qui soient porteurs, comme des Joan de Guillen, comme d'autres. Il y en a plein, il y en a plusieurs, mais il en faut encore. Et chaque chose arrive à un moment, c'était le cas pour 33 tours de piste, ça n'a pas tourné. Mais
c'était à une époque particulière aussi.
Ça, voilà, c'était à une époque particulière.
Sorti, ouais. Il serait sorti maintenant, il aurait peut-être quelques dates de plus. Mais
Ah ben maintenant, on était prêt. En fait, on n'était pas prêt, je pense.
Le métier était un peu plus cloisonné.
Le milieu n'était pas prêt pour avoir...
Il y avait plus d'argent pour le cirque nouveau, il était encore en ébullition. Donc c'était pas le problème du réseau et tout, mais le métier était cloisonné dans le sens où la compagnie Anomalie avait fait le cri du caméléon avec cet énorme succès qui nous avait dépassé. Nous, on sort du CNAC, on fait 300 dates, on fait 120 dates la première année. On croyait que c'était ça, artiste de cirque. C'était 120 dates par an. Donc voilà, pendant 40 ans, j'ai fait un métier où je suis applaudi 120 fois par an. On fait des émissions de radio tous les deux jours. Enfin, c'était le délire. Ah, c'était un artiste de cirque, c'était une espèce de starisation à outrance qui nous avait complètement dépassé, mais qui était génial. Hein. Picoler tous les soirs, moi, personnellement, c'est une année de tournée qui était géniale. Mais je demande à tout le monde de vivre ça. Mais bon, la rechute était un peu dure, mais... Là où le métier était cloisonné, c'est qu'on avait fait ce spectacle qui était quand même qui a été extrêmement adulé par les programmateurs. On a joué partout. Et nous, on se lance dans un deuxième spectacle et on a nos idées. Et ce qu'on aurait pu faire, c'est faire le cri du caméléon numéro 2. C'est-à-dire reprendre un peu, faire un peu le même univers et faire, pour les programmateurs qui avaient pris le premier, faire un peu le même, la suite, quoi, comme on fait... Pirates des Caraïbes 2, Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, Rocky 5, Police Academy, ça y allait jusqu'à 12, tu vois. On aurait pu faire le cri du caméléon numéro 13, numéro 14. Et nous, on veut faire un truc, mais complètement différent. Parce que quand on a 23 ans et qu'on est artiste et qu'on a fait un truc à marché, on veut faire un truc différent quand même. On n'était pas, on n'avait pas cette soif de refaire un truc pour rester dans le confort. Donc le 33 tours de piste, c'était un cri de liberté, c'était une crise d'adolescence. C'était maladroit. C'était sûrement pas conforme à ce que les programmateurs attendaient. C'était sûrement mal joué, la musique. Elle n'était pas très super bien jouée parce qu'on n'est pas des musiciens professionnels. On veut faire de la musique. Mais il y avait une putain de liberté. C'était un cri, 33 tours. Et s'il y a des gens qui m'en parlent encore et des jeunes qui font du cirque et qui sont super connus maintenant et qui me disent « J'ai vu 33 tours de piste, ça m'a donné envie de faire du cirque, ça m'a donné envie d'aller sur scène. Rien que pour ça, ça valait le coup de le faire. »
Mais il y a un
vraiment,
truc,
c'est
quand même, du coup, puisque tu parles de ça, il y a des jeunes, tu dis il y avait des jeunes, et notamment je sais qu'il y en a qui sont aujourd'hui des gens du cheptel à l'écoum, et notamment Circa Tsuika, qui sont très branchés sur la musique et le cirque, et dans cette troupe-là, il y en a un bon nombre qui ont vu 33 tours, et qui se sont dit c'est ça qu'on a envie de faire, et aujourd'hui ils font de la musique et du cirque, parce que 33 tours, il faut quand même préciser que c'était vraiment... une espèce d'ambiance, en tout cas il y avait une part à la musique qui était énorme, vous jouiez, c'était un peu un concert cirque dans une ambiance un peu cabaret des années 30, on savait pas trop si ça se passait en Amérique du Sud où il y avait quelque chose de très fort dans et musicalement et dans l'ambiance et oui ça a inspiré plein de gens finalement, puis il y a un côté aussi je pense qui a pas plu à la profession, c'est que et Bernard Turin lui-même avec tout le respect qu'on lui doit et on l'a beaucoup apprécié qui a pas été tendre avec 33 tours de piste parce que ça correspondait pas du tout au projet qu'il avait mis lui en place à l'époque à l'école. C'est-à-dire qu'il voulait former des artistes qui sortaient, qui devaient se mettre au service d'un metteur en scène. Vous tournez avec le cri et juste après vous arrivez et vous dites nous on propose un truc, c'est nous qui le montons. On fait appel à Christian Lucas parce qu'on l'a eu en prof à l'école et il nous fait un regard extérieur. Et Kiki il part dans votre délire, il vous accompagne pleinement mais sans se donner de limites ni de barrières. Et il me semble que derrière effectivement Bernard Turin lui-même le premier n'a pas du tout apprécié ce...
Mais c'était une époque,
quoi. Mais oui,
où il y avait peut-être moins de liberté quand même. Le cirque, je le redis, le cirque, le nouveau cirque, il était encore, il y avait des cloisons quoi, qui n'étaient pas, qu'on n'avait pas brisé quoi. Il y a plein de gens qui ont brisé les cloisons maintenant. Mais les cloisons, elles peuvent revenir. Donc faut faire attention. Donc c'est pour ça qu'il y a des jeunes qui veulent créer, qui font des trucs. Croyez à ce que vous avez dans le bide et si vous avez envie de faire un cri de liberté, faites-le parce que c'est pas parce que le programmateur il va pas aimer maintenant que c'est pas bien. Il faut le redire tout le temps aux artistes. Faites ce que vous avez envie de faire et préoccupez-vous, voilà, et faites le bien. Et soyez fiers de vous. Voilà, et c'est pas parce qu'à un moment il faut pas se laisser déstabiliser par la profession des fois parce que c'est des fois c'est pas bon. Et de même qu'il faut pas se faire trop encenser non plus par la profession parce que ça c'est aussi la porte ouverte au confort et c'est dangereux. Voilà, ça c'est important.
Marc, moi j'aimerais revenir sur ton parcours et aussi ton parcours par rapport à Circa, puisque sur les 25 ans de Circa, donc 24 ans de ta présence sous différentes formes. Donc on parlait de 97 avec ce spectacle des chaises qui avait été très remarqué et qui a tourné.
94. Excuse-moi, pardon. Je vais être très à cheval sur les dates, Anne.
D'accord, 94, oui, tu as entièrement raison. Et donc en 2000, pour la première fois, le nom d'AOC sur le festival Circa.
Oui, en 2000, en fait, on sort de l'école. Et nous, ben voilà, on est comme tout le monde, on vient de finir le CNAC, on a des envies pressantes de monter notre projet, quoi, de montrer qui on est, même si on est tout à fait capable de s'insérer dans une mise en scène et se mettre au service d'un metteur en scène. On veut monter notre compagnie, parce qu'à une époque, ça a été un peu compliqué. Il faut comprendre qu'il y a les premiers nouveaux cirques ont commencé à regarder d'un mauvais œil le fait que les gens qui sortaient du CNAC en particulier, parce qu'à l'époque c'était un peu la seule grande école en France qui permettait de former des artistes professionnels, avec le Lido dans un autre registre. Et les cirques plumes, les cirques baroques, les cirques Arcaos, ils voyaient ça d'un mauvais oeil, parce qu'ils se rendaient compte que les artistes qui sortaient du CNAC, ils voulaient plus aller dans leur compagnie, mais ils voulaient monter leur propre compagnie. Donc ça commençait à faire de la concurrence. Donc c'était pas évident, mais nous, comme tout le monde, on avait envie de monter notre projet. Donc on a monté le collectif AOC et puis...
Alors déjà, voilà, sur le nom collectif AOC, personnellement, pour moi, c'était une appellation. Quand je venais au festival regarder des spectacles, je venais voir des compagnies. Et puis justement, collectif AOC. Déjà, dans la terminologie, je pense que ça changeait les choses et donc dans l'esprit aussi, forcément.
Bah, dans l'esprit, je sais pas, c'était peut-être un peu le côté oui, nous on veut pas faire tout à fait comme tout le monde, donc on va s'appeler collectif, parce qu'on a revendiqué vraiment le fait qu'on travaillait en collectif et qu'on était tous à prendre des décisions, à mettre la main à la pâte. Mais Compagnie Anomalie l'ont fait avant nous et ils ont eu le même fonctionnement que nous, ils s'appelaient Compagnie.
Ouais, mais si on vous étiez arrivé avant nous, ce serait appelé Collectif Anomalie, parce que le mot collectif est plus fort. Compagnie, c'est daté, c'est Compagnie, il avait sa compagnie Molière, et c'était lui le directeur, il écrivait les pièces, donc Compagnie ça veut dire qu'il y a un directeur artistique. Sauf que nous quand on est sortis, les compagnies de cirque, il n'y a pas de directeur, mais il y en a peut-être, K1K, c'est Gulco, il y en a d'autres. Mais vous, c'était le collectif, et ça voulait dire qu'il n'y a pas de leader artistique. Le projet artistique, c'est tous ensemble, s'il n'y en a qu'un qui fait, ça n'existe plus, c'est pas la peine. C'est oui. Ça qui était fort, et de le revendiquer à travers votre appellation, même si ce n'était pas forcément affirmé. C'était sûrement inconscient, mais c'était très fort, cette appellation collective, de revendiquer le collectif.
Oui, ça c'est sûr qu'on a choisi le mot collectif, plus ou moins pour ça en tout cas, parce qu'on revendiquait de travailler tous ensemble, et on n'a toujours pas de leader dans la compagnie. Aujourd'hui, on est toujours quatre à diriger la compagnie, et ça pose un problème aux directeurs de lieu, les programmateurs. Et les institutions et les tutelles, parce qu'ils ne savent pas à qui s'adresser en fait. Ils se disent, mais qui dirige le travail vraiment? Donc on se retrouve en réunion, on dit, qui dirige le travail chez vous? Et on lève tous la main, enfin, on dit, ben, on est quatre, on est là quatre, c'est nous quatre. Et ça les perturbe. Alors des fois, on fait exprès, donc quand on n'est pas tous au rendez-vous, parce qu'on ne peut pas toujours arriver en groupe, mais on arrive, on en envoie un ou deux. Alors du coup, des fois, c'est moi. Donc il y a un programmateur, il se dit, ah oui, en fait, le collectif AOC, c'est Marc Pariti. Mais ce qui ne sait pas, c'est que son collègue, il a toujours affaire à Gaëtan Levesque. Et puis un autre, il a affaire à Chloé Duvauchel ou à Marlène Rubinelli. Puis des fois, on est par deux. Et puis voilà, on brouille les pistes comme ça. Et ils aiment bien avoir des interlocuteurs privés, les diffuseurs, souvent. Alors aujourd'hui, avec le temps, ils ont bien compris qu'on était vraiment un collectif et que c'est comme ça. Et finalement, aujourd'hui, ça ne leur déplaît pas parce qu'on continue notre bonhomme de chemin. La compagnie, elle a maintenant plus de 12 ans d'existence. On est en train de préparer notre quatrième création collective. Plus plein de projets qui sont nés au fur et à mesure. Donc il y a déjà 7 ou 8 créations à l'actif, ouais, de la compagnie.
Des collectifs dans le nouveau cirque en 12 ans d'existence, j'en connais pas beaucoup. On a le cirque des accordés, bah oui. On vient de clôturer hier. C'est tout neuf, on a dissolu. Mais on a dissous,
On a dissous. Le fonctionnement hier, est quand même extrêmement... C'est difficile, bah oui, de fonctionner comme ça. C'est difficile.
Oui, c'est difficile de fonctionner.
Vous allez bientôt avoir le record de longévité en tant que collectif affirmé réellement. C'est-à-dire vous êtes 4 décideurs.
Oui, on était plus nombreux au départ, mais on est toujours quatre. Et ça reste comme ça pour l'instant. Et je pense que là, il y a des beaux projets. On vient de déménager, on vient de s'installer en Aquitaine. Il y a plein de belles choses qui se passent. Donc je pense qu'on n'est pas prêt d'arrêter la compagnie.
Vous êtes passé du vin de Champagne au vin de Bordeaux.
Exactement. Et ça passe mieux le Bordeaux que le Champagne, je dois avouer.
Oui, sur le moment, le Champagne, ça fait des bulles, c'est quand même...
Oui,
assez
mais c'est une belle ébullition. On était très contents d'être en Champagne pendant plus de 10 ans. Mais aujourd'hui, on rejoint l'Aquitaine et il se passe plein de choses. Et on n'a jamais été autant sollicité. On n'a jamais eu autant d'accroches avec plein de gens depuis qu'on est arrivé. Ça fait même pas un an qu'on s'est officiellement installé en Aquitaine. Et on a déjà des liens avec des lieux ou des gens dans tous les départements d'Aquitaine pour proposer des projets. Et il ne s'agit pas juste de proposer notre grosse forme, mais non, les petits projets, les solos, des projets pédagogiques aussi. Tout ça, ça se met en place et
c'est aussi en ça que, pour moi, il y a une vraie distinction. Alors, c'est peut-être pas la réalité, mais en tout cas, pour moi, c'est une vraie distinction entre une compagnie et un collectif. C'est-à-dire que jusqu'à donc peut-être les années 2000, les spectacles qu'on voyait notamment à Circa, c'était une compagnie avec un certain nombre d'interprètes qui étaient pas à géométrie variable pour moi. Et le collectif AOC, ça ouvre d'autres possibilités, et c'est toujours le cas aujourd'hui, c'est-à-dire que au sein d'AOC, il y a des formes différentes, il y a des spectacles différents. On n'est pas tous sur tous les spectacles. Il y a des duos, des solos, il y a les vadrouilles qui ont démarré cet été. Voilà, ça permet aussi plusieurs formes, plusieurs projets. D'ailleurs, ça aussi, ça doit perturber les programmateurs et les financeurs.
Oui, ça les perturbe. Après, oui, on a plein de projets, on ne fait pas tous partie des projets. Le seul truc qui nous rassemble exclusivement tout le temps, c'est nos créations sous chapiteau. C'est celles qu'on appelle les créations collectives. Et là, il n'y a pas photo. On est tous impliqués dans la jeunesse du projet et on est tous sur le plateau. Après, on n'est pas les premiers à l'avoir fait. On n'est pas les derniers non plus. C'est-à-dire qu'on va revenir au lien qui me lie, moi et la compagnie Anomalie. Hormis le fait qu'il y avait mon frère dedans, et il se trouve que quand on était en première année de Rony, eux, ils sortaient de Chalon. Ils ont joué le Cri du Caméléon à la Villette. Et nous, en tant qu'étudiants de Rony, on déchirait les billets à l'entrée, quoi. Et du coup, ça a permis que notre promotion rencontre cette promotion qui sortait. Ils étaient 10 gars au plateau. Hein, et moi, ma promotion en première année à Rony-sous-Bois, on était 16. Il y avait 12 filles pour 4 garçons. Voilà. Donc déjà, il y avait un peu des petites émulations entre les garçons et les filles. Et il y a quelque chose de...
Il y a eu des petites connexions.
Il y a quelque chose de très fort qui s'est lié entre notre promotion et la compagnie Anomalie. Et du coup, on les a toujours regardés vraiment comme des grands frères. Et Anomalie a commencé à la fin des années 90 avec ce qu'ils appelaient eux à l'époque les projets satellites, et qui étaient des projets plus petits, qui incluaient pas forcément tous les gens de la compagnie. Et ça a été un peu les précurseurs sur ça. Et nous, on a suivi forcément parce qu'on a toujours été inspirés par la compagnie Anomalie. Aujourd'hui, il y a le cheptel Alekoum. C'est encore... Autre chose, c'est très compliqué, mais c'est une entité de plein de compagnies au sein duquel il y a plein de projets, mais du coup, c'est un petit peu pareil. Alors, nous, on embrouille un peu les pros, mais finalement, aujourd'hui, ils s'y retrouvent assez clairement, parce qu'il y a des projets plus petits, il y a des solos, ils commencent à comprendre ça et ils commencent à accepter la chose. Le cheptel, c'est pareil. Je pense qu'à un autre niveau, ils embrouillent aussi les pros parce que c'est compliqué.
Le cheptel, c'est assez génial, moi, je trouve.
Mais c'est super.
Quand le cheptel a commencé à prendre corps, moi, j'ai été super content. J'ai vu ce qu'aurait pu devenir Anomalie si on avait réussi à fédérer des idées, notamment de Jean-Benoît, tout ça, d'aller sur un lieu. Il y a plein de gens qui arrivent et tout d'un coup, on crée une ruche. Il y a plein d'abeilles qui sont là et il y a des miels qui sortent de saveurs différentes. Mais laisse tomber, c'est le régal pour les papilles, quoi. Tous les miels qui sortent. Et le cheptel, c'est une ruche hyper riche. Pour moi, c'est la ruche importante.
On va juste préciser donc le cheptel Alekoum pour le nom complet, dont fait partie Circa Tsuga, la fanfare, voilà, qui est présente à nouveau sur le festival.
Et le repas aussi qu'on a pu l'occasion l'année de voir dernière. L'année dernière, c'est aussi
il y a même des compagnies. On a dire comment ça s'appelle. Voilà, Fournaise, c'est cheptel. Circa Ital, c'est cheptel.
Croissance au théâtre, il y a 3 ou 4 ans, c'était aussi le cheptel. Enfin, voilà. Et puis en plus, il y a des gens que... C'est pas que des entités différentes, parce que dans Circa Tsuga, il y a des gens qui sont dans le repas, et puis d'autres qui sont dans un autre projet, puis il y en a qui sont dans le repas et dans Croissance. Enfin, c'est tout ça, ça se croise, et c'est complètement... oui, il y a de quoi devenir un peu névrosé à la fin, mais c'est intéressant.
Ouais, c'est un vrai pôle cirque, même s'il n'a peut-être pas le label. Ouais, c'est un vrai pôle cirque, le cheptel, pour moi.
La forme est extrêmement innovante, donc forcément, oui, voilà. Ça déstabilise dès le départ, en fait. Donc c'est ça qui fait aussi l'intérêt.
Oui, il faut que tu parles un petit peu plus près du micro. En fait.
Oui, je parle trop loin du micro.
Moi,
oui.
je le dis à l'antenne. Hein. Je me permets ce genre de digression.
Alors moi, je vais introduire à nouveau un souvenir personnel. Personnel, lié à la compagnie et lié à Marco. Donc 2000, on a dit, première apparition du collectif AOC au Festival Circa. Et 2002, pour moi, un grand choc à Andoumingue. La syncope du 7. Alors, j'explique d'abord le grand choc, parce que la première fois que le spectacle a joué, je n'étais pas sous le chapiteau. J'étais dans la tente restauration qui était juste à côté et je me suis demandé ce qui se passait, parce que j'avais pas du tout compris que c'était un spectacle qui commençait. De l'extérieur, ça faisait beaucoup de bruit. De l'intérieur aussi, mais de l'intérieur, quand on voit le spectacle, on comprend pourquoi. Tu peux nous parler de cette aventure, pas forcément du spectacle en lui-même, mais de l'aventure de la syncope du 7 ?
L'aventure de la syncope du 7, c'est notre première création, clairement. Donc on a tout fait de nos mains, hein. On a construit le décor avec un spécialiste, mais on a appris à souder, on a coupé de la ferraille pendant 2 mois dans un hangar en plein hiver à Châlons-Champagne. C'était assez sympa.
Oui, une scénographie énorme.
Il y avait une grosse scénographie, en fait. Tout était focalisé autour du trampoline. C'était quand même l'agrès principal. Il y avait du trapèze aussi, des portées acrobatiques, du jonglage. Mais tout était fait autour du trampoline. Et donc, on avait un gros échafaudage autour du trampoline avec un mur en plexiglas. Et du coup, on grimpait le long du mur. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu avant.
Et la musique.
Et la musique qui était très... avec Bertrand Landhauser, notre compositeur attitré, et Olivier Teneur, qui était le musicien sur scène, qui ont co-écrit la musique. Et la musique était assez... elle a frappé, marqué les esprits, parce qu'elle était de nature assez technoïdale, très électro, et en même temps très empreinte de Via Bertrand, qui est un musicien hors pair, qui est vraiment très 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 doué, parce que dans la syncope du 7, il y a des morceaux qui n'avaient pas l'air comme ça, mais tous les musiciens qu'on croisait, des très très bons musiciens, ils notaient que tel morceau était écrit en rythme de 7 et que ça c'était un truc très compliqué à faire, et ainsi de suite. Et la musique, elle marquait les gens, et du coup on a fait un CD d'ailleurs, et on l'a vendu comme des petits pains, les gens s'arrachaient le CD à la fin du spectacle. Et la syncope du 7, c'est un spectacle, on va finir sur ça, mais c'est un spectacle où on a juste beaucoup, beaucoup, beaucoup tourné avec ce spectacle. Ça a été, je pense, à l'époque, quand on l'a sorti en 2001, ça a été un peu une révélation. C'était peut-être, c'est pas une autre étape, c'est loin d'être un spectacle qui aura marqué les arts du cirque, mais à l'époque, il a marqué tout le monde, oui, parce que on a, je pense, osé. C'est juste là, c'est une analyse que je fais juste à chaud là maintenant, aujourd'hui, tu vois, je me suis jamais posé la question avant, mais on a osé amener, du coup, ne serait-ce que la musique, quoi. C'est-à-dire qu'on était quand même encore dans un espèce de rapport où, dans les spectacles de cirque, on conservait un peu des musiques toujours un peu world, ou voire même un peu inspirées du Zigane et ainsi de suite, pas que, hein, parce que...
Oui, il y avait le style de la musique, mais... et puis il y avait aussi la manière dont opérait le musicien sur scène, puisqu'il utilisait donc plus ou moins la scénographie elle-même.
Il utilisait toute la scénographie, donc on avait sonorisé le mur avec des capteurs, le trampoline était sonorisé, donc le son des ressorts permettait de lancer le rythme de la musique. Et tout ça, ça se mélangeait. Et puis, on avait aussi tout focalisé autour du trampoline, si bien que toute la séquence de jonglage, par exemple, elle était totalement en lien avec le trampoline. Donc, en même temps qu'il y avait des gens qui rebondissaient sur le trampoline, on lançait les massues. Donc, pendant l'envol, ils récupéraient les massues, ils nous les relançaient sur les plateformes. Tout ça, ça tournait. Et c'était une façon de faire du jonglage qu'on avait sûrement peut-être encore jamais vu. Et d'ailleurs, je précise que nous avions eu un regard extérieur, et c'était Jean-Benoît Mollet de la compagnie Anomalie, pour lui rendre quand même hommage sur le travail qu'il a produit sur ce spectacle.
On aura parlé de lui pratiquement tout le long de l'émission,
et on ne l'aura pas eu. Mais voilà, quand Laurent parlait d'un spectacle où on tourne beaucoup, voilà, nous on a fait plus de 150 représentations, on a eu la chance d'aller sur tous les continents avec ce spectacle. Et c'était aussi un peu notre spectacle, voilà, c'était notre première création. On s'est un peu emballé aussi comme Anomalie, puis après on est redescendu, hein, parce que on a acheté un chapiteau, puis on a découvert les vraies réalités du métier. Quoi.
Alors, on va vous proposer un petit jeu. Je vais tirer au hasard, parce que je crois que les couleurs influencent le tirage au sort. Donc, je vais réellement fermer les yeux et piocher un petit papier au hasard. Je vais vous le donner, vous allez l'ouvrir et vous allez lire la phrase qui est à l'intérieur et nous donner votre sentiment, interprétation. Voilà, sinon...
Ah, comme ça.
Voilà, c'est Natacha qui a préparé tous ces petits mots. On voit pas si tu bouges la feuille en même temps que tu nous la montres. Voilà, donc alors, juste vous rappeler qu'on est sur 103.5, que c'est Radio Circa, et que ce soir on vient de passer un moment merveilleux qui s'achève bientôt avec Marc Paretti, donc artiste de cirque et grand fidèle du Festival Circa, puisque comme tu le rappelais, 24 éditions sur 25, et encore la 24e, tu étais là en amont.
Oui, un peu. Hein, j'ai
voilà,
dit,
et donc avec ses invités, Laurent Paretti et Vincent Delavenère. Alors, Laurent, tu vas nous lire la phrase ?
Une phrase de Charles Baudelaire, « Le beau est toujours bizarre ».
Messieurs.
Alors il paraît bizarre. Il paraît bizarre parce qu'il est toujours, innovant dans un sens. Et puis il est toujours précurseur de quelque chose, donc il est bizarre par rapport à ce qu'on à une habitude, peut-être. Oui. Peut-être.
Laurent.
Plus que le beau, j'ai pas envie de faire le rapprochement avec le côté esthétique, parce que pour moi, le beau, c'est pas l'esthétique. Il y a des esthétiques qui sont peut-être jugées très belles, mais qui sont très moches. Mais plutôt, le beau, c'est une émotion, en fait. Quand on dit « Oh putain, c'est beau !»« Oh putain, c'est beau !» c'est qu'on a ressenti quelque chose. On n'est pas de marbre face à quelque chose qui serait joli, c'est pas joli. Beau, on a quand même une émotion. Et quand on est vraiment ému, une vraie émotion, on peut que se sentir bizarre après. Donc là, moi, je le vois comme ça. Quoi. C'est une émotion très forte, le beau. C'est au-delà de l'esthétique, le beau. C'est... Enfin, je sais pas.
Marc ?
Oui, j'ai rien à rajouter. Là. Je suis totalement en accord avec la réflexion de mon frère. Effectivement, je le rejoins pleinement sur ça. Je ne rajouterai rien du tout sur le beau est toujours bizarre.
On vous remercie beaucoup, tous les trois.
Merci.
Bonne soirée à tous.
Bonsoir.
Je vous rappelle
Merci.
Que nous sommes sur 103.5. qu'il y a beaucoup de spectacles à voir ce soir, qu'on vous attend aussi à la maison du festival et qu'on est... Ah, je vais passer la parole à Bertrand.
On me fait signe de lire le programme de la soirée.
Ah oui.
Mais
c'est le programme de la soirée,
oui.
Voilà.
Et voilà. Ah oui, attends. Tu sais que ta prestation du Nico...
C'était la voix du programme d'aujourd'hui, donc on va continuer dans la même veine.
Magnifique, ouais.
Je vous promets que je n'ai pas fait exprès. Hein. J'étais vraiment pas parti pour faire le programme ce soir. Hein. C'était pour faire une petite private joke à la régie ce soir en radio. Enfin bon, on va y aller. Donc à 18h15, ça s'est déjà passé. Vous êtes gentil, vous m'avez fait des repères qui correspondent à rien du tout. Moi, quand je travaille à l'Élysée, ça se passait mieux que ça. Hein. Alors, à 20h30, donc ça c'est bientôt, il y a le spectacle secret par la compagnie Cirque ici, c'est Joanne Le Guilherme. Vincent de Lavener en a très bien parlé. Et effectivement, c'est un pionnier dans le nouveau cirque. C'est au chapiteau de Cirque ici, au cirque, ça c'est très bien. Et puis, on va revenir sur 20h30 encore, parce que là, il y a le spectacle des écoles, c'est le plateau national, 15 numéros.
Dont un du Pop Circus,
dont un du
évidemment.
Pop Circus, ça c'est une super école de cirque. Alors, pour qu'ils s'affranchissent un petit peu des règles, et ça c'est un petit peu moyen quand même, parce qu'aujourd'hui, il faut faire attention à la sécurité quand même. Mais bon, tant qu'ils font des belles choses, on est content. Alors ça, je le redis, le plateau national, il faut aller le voir, parce que c'est la base du festival. Sans le plateau national, sans les écoles de cirque, il n'y aurait jamais eu Circa, et il n'y aurait pas ce beau lieu. Je l'ai déjà dit, mais ce beau lieu, ce lieu magnifique, je ne voulais pas parler de beau lieu, le bled à côté de Hoche, bien sûr.
Ça, c'est sous le dôme. Hein.
Ça, c'est sous le dôme de Gascogne, c'est ce magnifique dôme. Et puis, après, nous avons toujours à 22h30 dans la salle de répétition du cirque. Voilà. Écoutez, Sophie, je vous ai dit hier, vous étiez charmante, mais là, ce soir, vous rigolez beaucoup. Vous êtes un petit peu idiote, je ne veux pas dire, mais vous avez un petit peu perdu de votre bagou. Donc, à 22h30, la compagnie Circonflex pour Dos Bout en Bout, c'est à la salle de répétition du cirque. Et puis, toujours à 22h30, ça, c'est ceux-là qui ont déjà joué à 18h15. C'est eux qui aiment bien, ils savent suer, ils aiment bien mouiller le maillot. Eux, ils savent travailler plus pour gagner plus. À 22h30, au chapiteau cathédrale, c'est le cirque in extremis avec extrémité. Et puis peut-être que non, ce soir, il n'y a pas de concert, donc ce n'est pas la fête. Voilà.
Oh, ça peut être la fête aussi sans les concerts. On attend les gens après les spectacles, pendant les spectacles, à la maison du festival.
Voilà, tout à fait.
Excellente soirée à tous.
Oui.
Alors pourquoi on écoute ça, Marco ?
Mais on écoute ça.
Et qu'est-ce que c'est ?
C'est assez simple. Il s'agit de Since I've Been Loving You. C'est un morceau de Led Zeppelin qui est joué là actuellement. C'est en concert en 1995. C'est Jimmy Page et Robert Plant qui se sont retrouvés avec un orchestre philharmonique. Et on écoute ça parce que c'est un de mes morceaux préférés. Je me suis dit, puisque c'est mon émission, je vais mettre le morceau que je kiffe. Je pense que c'est sûrement un des plus beaux blues de l'histoire du rock. C'est assez hallucinant, c'est Led Zepp. Il faut quand même dire que Robert Plant, il a déjà 40 ans passé, il a 45 balais et il a toujours sa voix du début. Et j'ai mis ça parce qu'on devait inviter Mathieu Duval du Circa Tsuka, qui était un de mes meilleurs amis de l'école du temps de Chalon. C'était mon coloc et il se trouve qu'on avait une passion commune, c'était Led Zepp. Et on s'est fait des soirées... interminable à écouter Led Zepp et notamment ce morceau en boucle. Voilà. Donc c'est pour Mathieu, il est occupé, là il est au dôme.
Bonne écoute alors. I'm
Tears, they fell like rain.